Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Perdusa, le premier de cette saison consacré à la rentrée des networks et puis à la fin des diffusions des séries d'été du câble. Bonjour Drem.
Bonjour.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Blackie et Lisa. Commençons tout de suite par l'événement de cette rentrée, la diffusion du premier épisode de Friday Night Lights sur NBC vendredi soir. Une nouvelle case horaire, un nouveau générique et de nouvelles impressions. Bon, allez, Lisa, vas-y, explique.
Quelle impression ça me donne?
Quelle impression? Moi, j'ai bien aimé. Je pense que être la seule à pas avoir des vies vraiment mitigées. Le seul point sur lequel je suis un petit peu sceptique, c'est l'histoire de la rivière avec... on a un cadavre, qu'est-ce qu'on va en faire? Dans les films, ils le jettent dans une rivière, donc on va faire la même chose. À partir de ce moment-là, on sait pas vraiment s'ils l'ont fait, puisqu'on n'a pas de plan sur la banquette arrière de la voiture. Donc on sait pas où est le cadavre. Maintenant, sur tout le reste, moi, j'ai adoré.
Moi, le générique me posait problème. J'aimais beaucoup le générique de la saison 1 parce qu'il y avait énormément d'images de la ville. Là, c'est vraiment... Ça représente bien le changement de la série. On s'axe plus sur les relations entre les personnages et non plus que cette vie dans une petite ville du Texas. L'histoire de Tyra et Landry m'a pas... Ça m'a surpris, mais ça m'a pas tant gêné que ça parce que ça reste... Bon, ça reste quelque chose de totalement exceptionnel qui n'arrive pas tous les jours, mais ça reste assez logique par rapport à l'attitude qu'avait Tyra en saison 1. Mm. Peut-être la peur que si elle allait chez les flics, on n'allait pas la prendre au sérieux, on n'allait pas... Peut-être que pour elle, la seule option, c'était sur le moment paniqué de se débarrasser du cadavre. C'est pas la chose qui m'a...
Mais ça reste quand même
ça reste pas... super maladroit, ça reste totalement pas du Friday Night Lights.
Ben, faut... Je sais pas quoi encore en penser de toutes ces intrigues, mais celle-là, quand j'essaye d'être positif, je me dis, ben si, ça s'insère bien, puisque ça reste quand même une petite ville du Texas, ça reste une fille. Le mec a essayé de la violer, mais quand elle ira à la police, de toute façon, elle pourra pas plaider la légitime défense, puisqu'elle sera pas crue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation?
Et puis c'est des adolescents.
Ce sont des adolescents, le gars il veut appeler son père qui est flic, forcément, enfin... Leur réaction ne me pose pas de problème, moi. C'est cette intrigue-là, qu'est-ce que ça va apporter à la série, je ne sais pas encore quoi en penser.
J'ai trouvé ça très très réussi au niveau de... C'était très oppressant comme intrigue. Et c'était d'autant plus oppressant qu'on savait qu'elle ne pourrait rien faire et qu'elle est dans une petite ville et il y a quelqu'un qui la suit. Et j'ai trouvé ça très... C'était pas facile à regarder. Enfin, moi ça m'a un petit peu chamboulé. Mais sur ce point-là, j'ai trouvé ça très maîtrisé. Je veux dire, l'atmosphère était vraiment... c'était maîtrisé, c'était véritable. En tout cas, c'était crédible.
Et ça permet aussi de mettre deux personnages, Tyra et Landry, sur le devant de la scène. Deux personnages qui n'ont pas de rapport avec le football américain.
Sauf, alors moi, l'intrigue qui me gêne le plus dans ce premier épisode, c'est Landry dans l'équipe de football. Qu'est-ce qu'il fout là?
Non, moi, j'ai compris que c'était juste le début, enfin... Qu'ils essayaient avec des nouveaux
tests. Ils faisaient
des tests, quoi. C'était pas sûr qu'ils soient pris, que c'était pas sûr encore que.
Ah, d'accord, en gros, à la première.
Moi, c'est premier
entraînement,
compris, hein.
Tout le monde peut venir s'inscrire, essayer son
costume
et tenter
costume, et tenter le.
D'accord.
Parce que ça, ouais, ça me.
Parce que c'était pour impressionner Tyra.
C'était aussi pour faire. Pour être un peu plus aimé de son père. Non, je sais pas, il dit ça à Tyra, elle lui dit. Mais tu vas faire du foot, c'est pour être un peu plus aimé de ton père, ça marchera pas. Et puis il fait, bah si, je crois mieux.
Ben, une des choses qui m'a vraiment plu dans ce premier épisode, c'est qu'il y a énormément de graines, d'intrigues dans d'épisodes à venir. On sait que le père de Landry va apparaître dans les prochains épisodes. Il est joué par un des acteurs de 24. On a vu les débuts de tension entre Smash et Saracen.
Saracen ? Comment ça ?
Dans la première scène à la piscine, où Saracen dit qu'il aime pas trop l'attitude de Smash, et quand Saracen prend le journal sur du football américain et Smash est en couverture,
d'accord,
il fait quelques petites réflexions. Il y a aussi le nouveau rôle de Jason Street, maintenant qui est
entraîneur.
Ouais, qui est entraîneur, maintenant qu'il faut vraiment qu'il trouve sa place dans la ville. J'ai bien aimé toutes les petites intrigues qui étaient incorporées. Maintenant, c'était pas un ensemble assez. Enfin, pour moi, ça ressemblait pas trop à un épisode de Friday Night Lights. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Je suis pas sûr d'aimer la nouvelle ambiance pour l'instant. Mais pour l'instant, ça c'est.
Il y a du changement. Il y a du changement dans notre série. Ça a fait. C'est normal qu'on soit un peu déstabilisé. 22 épisodes quasi parfaits. Un ton toujours homogène. Donc là, forcément, on est un peu stressé en fait.
Ça donne un peu le sentiment qu'ils essayent d'avoir un peu plus d'audience. On a déjà commencé avec une scène avec une bande son rock et des jeunes à la piscine en maillot de bain, on se dit ah tiens c'est un peu étrange, ça ressemble pas trop à la série qu'on aimait. Et puis même c'est vrai que la bande son en général ça ressemble pas du tout à ce que Snuffy Walden ou Explosion in the Sky
dans un sens
donnait, ça apportait vraiment une ambiance, quelque chose de vraiment très ça... fin, intime, enfin c'était pas comme les chansons qu'on a, je trouve qu'elles étaient vraiment omniprésentes dans l'épisode.
Cette scène m'a pas gênée parce que j'ai trouvé que c'était la continuité parfaite de la fin de la saison où ils gagnent et où c'est des stars et où tout le monde les adule, les adore, et j'ai trouvé que cette scène était parfaitement représentative du changement que ce championnat a engendré dans leur vie, c'est-à-dire que maintenant voilà ils vont à la piscine, c'est
et puis c'est plus des outsiders mais... cette saison.
Voilà. Mais c'était un peu sur tout l'épisode, j'avais l'impression de naviguer entre des moments on essaie de rameuter du public et des moments de la série en général, ce qu'elle faisait le mieux, et j'avais vraiment l'impression de naviguer entre les deux.
Moi, ce qui m'aurait gêné, c'est qu'il n'y ait pas eu de changement entre. De changement de ton, justement, dans leur vie, entre le moment où c'était des outsiders qui n'avaient rien gagné et le moment où c'est les stars de la. C'est quand même ça le principe de base de la série, c'est comment est-ce que des jeunes sont mis sur un piédestal alors qu'ils n'ont pas du tout les épaules pour avoir un tel poids, une telle célébrité. Et... ça m'aurait gêné qu'on oublie tout ça pour dire bon bah maintenant on va quand même parler un petit peu plus de la petite ville et...
Oui mais là c'est tu parles au niveau des personnages, au niveau du script, moi c'est vraiment l'ambiance générale, il y a vraiment une façon de faire, une façon de filmer, une façon de servir de la bande-son, enfin...
Oui mais tout ça je pense que tout ça c'est au service...
Je pourrais pas je l'ai pas devant les yeux l'épisode mais...
Je pense que tout ça c'est au service de ce changement, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, du coup ça m'a pas trop dérangé et j'ai trouvé ça logique. Et dans la lignée de Friday Night Lights, parce que ils ont assumé le changement et c'est juste. Moi, ça, j'ai trouvé que ça sonnait juste.
En tout cas, on verra si le reste de la saison donne raison à Lisa ou à Blackie. Si Friday Night Lights fonctionne pas trop mal dans sa nouvelle case horaire, et puis si les scénaristes se mettent pas en grève le 31 octobre. Mais en tout cas, on va parler... parce qu'en gros, avec toute cette rentrée où il y en a des millions de choses à regarder, il va peut-être falloir en profiter parce que... Mais il est possible qu'en 3 mois, on n'ait plus rien à voir. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se mettre à Dirty Sexy Money ou à n'importe quelle nouveauté de la rentrée? Commençons par la série qu'on attendait presque le plus à Perdusa. Dirty Sexy Money, un soap avec Peter Krause et toute une famille d'acteurs déjà connus des séries télé. Qui veut se lancer?
Bah toi, t'aimes bien.
Moi, ouais, j'aime beaucoup parce que c'est un soap, c'est un vrai soap. Et c'est pas le soap nouvelle génération comme on a pu voir ces dernières années où c'est bourré de répliques méta, on fait des blagues, on n'assume pas vraiment les rebondissements et c'est plutôt sympa ce genre de soap, c'est plutôt drôle en général quand c'est bien écrit. Malheureusement, bah, il manque toute la dimension sentimentale qui fait qu'un soap c'est sympa et qu'on pleure devant un mariage, ce genre de choses. Autant j'étais pas complètement convaincu par le premier épisode... où là, il y avait le problème d'ABC qui diffuse 25 chansons par épisode. Une fois sur deux, les chansons qu'on a en bande-son n'ont rien à voir avec l'action qui est en train de se produire. Ça parasite même l'esprit de l'épisode. On a l'impression de voir un clip plutôt qu'un esprit de série, qu'un épisode de série. Le deuxième était plus calme. Il y avait moins de chansons. Le rythme était plus fluide. Et puis...
Et surtout, il n'y avait plus de voix off.
Il n'y a pas de voix off, peut-être, ouais, mais moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des vraies scènes sérieuses, c'est que Sutherland, à la fin, extraordinaire, et on a des vraies émotions devant une série, pas juste la Paris Hilton, la famille de Paris Hilton déjantée, dont on pourrait se moquer pendant
42 minutes. Extraordinaire. Il remue le menton, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Extraordinaire, regarde.
Je sais pas s'il était... Je sais pas, c'était en tout cas, non. Il était parfaitement bien intégré, son jeu était parfaitement bien intégré dans cette scène. Enfin, moi, tout m'a plu sur cette scène de la fin qui, justement, dans 90% des séries, j'aurais trouvé ça cheesy, enfin, j'aurais trouvé ça... Là, et ben, là, on est dans un soap, bah ouais, dans un soap, les sentiments, c'est en général exacerbé, et ben, ça fonctionne, et j'étais vachement content d'avoir une série qui s'assume enfin, un soap qui s'assume enfin.
Ça fait depuis... L'action aussi, elle avance vite, je trouve. C'est pas le soap de la mi-journée où on se fait chier devant et qu'il y a besoin de 6 mois pour que quelque chose se bouge. Là, vraiment, deuxième épisode et...
Dans le deuxième épisode, le moment où Peter Krause révèle bah, pourquoi il est resté dans cette famille, pourquoi il a accepté le job. Ça permet d'éviter les intrigues qu'on pouvait supposer qu'elle allait se mettre en place, genre je vais essayer de savoir qui a tué mon père, mais attention, j'ai failli me faire prendre par un tel qui se demande quelles sont mes motivations, etc. Au moins là, on part sur des nouvelles bases. Et, non, moi, je suis absolument enthousiaste, hyper content
de cette série. On a déjà d'autres suspects en dehors de la famille Darling, alors qu'ils sont quand même presque 10 et on nous en rajoute encore. Ouais, ça va vite pour l'instant.
Moi, j'aime pas l'intrigue du meurtre du père de Peter Krause. Je vois pas... C'est une bonne intrigue en début de saison 1 parce que ça permet de bien présenter tous les personnages. J'ai peur que ça plombe assez rapidement la série. Et contrairement à ce que tu disais, moi, la musique dans le deuxième épisode m'a beaucoup plus perturbé que dans le pilote. Mais c'était pas vraiment les chansons, c'était vraiment la musique. Il n'y a pas un seul moment où il y a du calme. Et j'ai vraiment eu l'impression que la musique essayait de faire véhiculer une émotion que la scène... Enfin, que la scène n'arrivait pas à faire véhiculer. Soit, je trouve pas que les acteurs soient particulièrement bons. Et ce qui m'énerve, c'est que je trouve ça un peu formaté à la Brothers and Sisters. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la façon dont l'épisode est monté. C'est très, très, très Brothers and Sisters, je trouve.
Tu penses qu'à chaque épisode, on va avoir un prétexte pour avoir la réunion de la famille, tout le monde se gueule dessus
Je pense que c'est juste ça. Et les acteurs, enfin, ils ont très bons acteurs, mais comme dans Brothers and Sisters, enfin... Ils font pas du travail exceptionnel, enfin ils font pas le matériel qu'ils auraient donné n'est pas non plus.
Ils font du travail de soap, enfin dans.
Bah oui, ils font du travail de soap. Je vois pas pourquoi on a besoin de Donald Sutherland pour ça.
Bon, il a un certain charisme qui donne, une dimension, qui donne une certaine dimension à son personnage. Enfin, ça fait qu'il se pose bien en patriarche. J'aime bien.
C'est peut-être des acteurs qu'on connaît, mais je trouve que pour moi, quand je les vois à l'écran, ce sont les personnages. Alors que Brothers and Sisters, bon, je regarde pas énormément. J'ai à peine regardé, mais je vois Sally Field, je vois Calista Flockhart, je vois pas des personnages.
Bah, j'ai le même problème que t'as avec Brothers and Sisters, bah, j'ai la même chose avec Dirty Sexy Money. J'arrive pas à... Pour moi, les personnages, les acteurs sont trop célèbres. Il y a trop de... Enfin, quand je vois Samara Sam Sondre, non, je pense à lui aussi. C'est un truc tout bête, mais quand je vois Nathalie Zee, je pense à Eyes, alors qu'elle avait un rôle mini. La femme qui est amoureuse de Peter Krause. Ah. La sœur de Samara Sondre.
D'accord, ouais.
Bah, jouait dans Eyes.
Vache à elle, je me disais, tiens, c'est peut-être la seule qui a jamais rien fait à la télé. Bah non.
Et bah non, elle était dans Eyes. Ça me gêne, enfin, quand je vois Gilles Kleber, je vois la mère d'Ally McBeal.
Mais c'est vrai que c'est un peu pénible cette tendance actuelle des séries télé à prendre que des anciens de séries. Enfin,
on est même du cinéma. Merde alors.
Non mais ouais,
avoir des. Si tu vas avoir un casting avec des grosses stars, bah non, je suis désolé, faut que t'aies un script derrière qui en vaille la peine, faut que t'aies quelque chose qui soit plus original et plus captivant. Que Dirty Sexy Money.
Les deux séries où il n'y a pas de grosses stars, enfin, d'après mes connaissances, c'est Gossip Girl sur la CW, une adaptation d'une série de bouquins destinée aux adolescentes, je crois, et Chuck. Dans Chuck, bon, mis à part un gars que seuls les gens qui ont regardé des épisodes de Firefly en entier peuvent connaître, il n'y a pas de grosses stars. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux nouvelles séries qui marchent pas très très bien sur leur chaîne?
Tant mieux pour Gossip Girl, faut annuler ça au plus vite, parce que c'est vraiment très très mauvais. Je trouve que tout est prévisible du début à la fin. Alors on pourra me faire le même reproche avec Chuck, sauf que Chuck c'est trop bien. Et tout est... Mais du début à la fin quoi, tout est prévisible, tu devines absolument tout.
T'as été surprise par Chuck?
Non, mais... attends, il arrive à faire poser un hélicoptère. C'est trop la classe.
C'est-à-dire en jouant la peau fine dans l'hélicoptère. Ah, je sais rien faire, mais s'il non, vous plaît, s'il vous plaît, et apprenez-moi à poser un hélicoptère. Ah oui, c'est un geek, on va lui dire, ah tiens, t'as fait un logiciel de simulation, bah fais comme dans le logiciel de simulation. Et il pose l'avion. En gros, Chuck, son côté geek, ça sert à faire trois répliques un peu pourries dans chaque épisode. Et sinon, c'est juste une pauvre fille qui a un secret. C'est un peu la Kim Bauer, on aurait fait une série d'espionnage.
Oh
et
non
Kim
oh
Bauer non. aurait récupéré les secrets d'État, il faudrait protéger Kim Bauer. Alors lui, il est complètement neuneux, parce qu'il est asocial, bon, pas comme Kim Bauer. Elle, bon, elle sait pas se comporter parce qu'elle a pas de cerveau, lui, il est juste asocial parce qu'il est geek. C'est la seule différence que je trouve, enfin, que je vois entre Chuck et Kim Bauer. Et...
Je suis bien d'accord avec toi. Enfin, moi j'ai l'impression que Chuck et Gossip Girl, c'est deux guilty pleasures, les deux de l'année. Et pour le moment, moi j'ai eu que de ça dans mon entourage. Soit on aime Chuck, soit on aime Gossip Girl.
Moi j'aime Gossip Girl.
Et j'aime aucun des deux.
Ou alors on aime aucun des deux. Mais parce qu'on a un gros problème avec les geeks. Mais...
Ah non, j'aime bien Harry Potter.
Mais voilà, ouais, non, c'est, mais Chuck, c'est du guilty pleasure, quoi, c'est clair. Ce n'est rien d'autre, c'est pas très intelligent, il n'y a pas de profondeur sur le sens de la vie, mais c'est super cool à regarder. Moi, ça me parle à mon côté fille, à mon côté geek, donc à partir de ce moment-là, je suis contente.
Mon côté fille n'est pas gênée par l'image, justement, de la blonde, l'agent Walker dans
Chuck. Si, c'est pour ça que je regarde Ugly Betty à côté.
Ouais, parce que...
Pour remplir mon côté... Non, sérieusement, non.
Les plans d'elle en mini-jupe qui se baissent avec des ados qui matent ses fesses, elle travaille bien dans un endroit où elle fait cuire des saucisses et elle a des petites couettes et c'est vraiment cliché.
Ça je te répondrai. Qu'est-ce que les hommes ont dû dire en voyant la scène avec le pote Bryce, je crois, le pote de Chuck qui meurt. Qui court partout, il est à moitié torse nu, il est en sueur, il saute partout. C'était une scène qui était clairement pour les filles. Et personne n'a crié au sexisme.
Ah non, mais moi c'est pas une scène, c'est juste que je trouve que le père c'est quand même un personnage dont Chuck est amoureux. On est censé s'attacher à Chuck, à montrer que c'est plus qu'un geek, que c'est un mec bien, etc., etc. Et elle, la blonde depuis le pilote. Ah, rien, c'est juste l'objet sexuel.
Comme tu dis, c'était qu'une scène. Là, c'est un personnage.
Oui.
Un personnage de la série qui est fait pour être formaté pour que les geeks mâles puissent aimer la série et trouvent à revenir chaque semaine.
Elle a que ça,
des scènes. C'est le côté bonasse de Sidney Bristow sans la profondeur
de Sidney Bristow.
De Sidney Bristow.
Oui, bon, d'accord.
Non, mais t'as le droit à des méchucks.
Alors que dans Gossip Girl, c'est quand même vachement bien qu'il y a des filles en cravate qui jouent au hockey sur le gazon, qui se tabassent à coups de crosse et tout ça. C'est quand même super rigolo. Moi, je suis content qu'il y ait une série depuis Felicity avec des adolescents qui se passent à New York. Parce que ça fait des jolis plans de coupe. Donc ça se passe à New York. Ça me rappelle Cruel Intentions là, avec Sarah Michelle Gellar. J'aime bien, là encore, qu'il n'y ait pas de second degré ou d'ironie. On y va à fond... On se prend au sérieux, comme dans un soap, toutes les 3 secondes à faire « t'as vu, si on était dans un soap, on se serait engueulé ». Comme le côté The OC deuxième saison, qui je trouve a parasité tout un tas de séries, là au moins ça s'assume. Moi je trouve ça marrant de voir des filles qui s'engueulent.
Attends, il n'y a que ça quoi, alors attends... Voilà, c'est ça quoi, le pitch de la série c'est alors elles vont s'engueuler et t'es plus ma meilleure amie et la vie c'est trop dur et pour montrer que je vais évoluer, je vais jeter mon téléphone portable. C'était mauvais.
Non parce que ça te dit quand même autre chose.
Pauvre petite fille riche, je jette mon téléphone portable, j'avais envie de la
frapper. C'est le principe même de la série, dès le début on nous dit ça va être les aventures de pauvres petites filles riches. Forcément, elles sont blindées de thunes, ça va pas être un souci, elles ont plein d'argent, c'est mieux pour les décors, ça va être plus drôle pour leurs costumes. Globalement, on s'en fout, et ce qu'on va suivre, c'est
la décadence
de gamines super riches.
Tu regardes Dirty Sexy Money, à côté, ils sont bien plus riches, ils sont bien plus détestables à cause de ça, mais il y a une profondeur derrière qui permet d'apprécier les personnages, d'apprécier les personnages et de... Là, il n'y a rien, quoi. Elles sont toutes plus détestables.
Dirty Sexy Money.
Dirty Sexy Money, ça reste un soupe. Enfin, c'est sympa.
Elle est où dans...
Ils nous disent rien.
Je suis bien d'accord avec toi, justement, c'est pour ça que je compare les deux, parce que les deux sont des soupes. Mais il y a quand même un développement des personnages.
Ça s'adresse.
Ouais, mais ça reste dans la même catégorie.
Mais version plus jeune.
Ouais. Oui, mais t'as toujours le côté... voilà, on va développer des intrigues qui sont pas...
Fantastiques.
Voilà. C'est pas des trucs, enfin, je veux dire, il cherche qui a tué son père, c'est pas super novateur. On a fait plus de...
Donc, je suis d'accord, Dirty Sexy Money, mais j'aime pas trop.
À partir de ce moment-là, je trouve que Dirty Sexy Money a beaucoup plus mieux réussi.
Moi, le problème avec Gossip Girl, c'est surtout son héroïne. Je trouve que c'est la nouvelle Marisa, Serena, elle a quelque chose d'énervant, je sais pas, moi j'accroche pas, et c'est elle le rôle principal.
Dans les bouquins, je vais pas te dire que j'en ai lu, mais apparemment dans les bouquins, elle a moins ce côté ingénu. Elle a quand même, enfin, elle a sauté. J'assume d'avoir été une salope quand même. Enfin, quand elle revient à New York, elle veut retourner avec ses copines et tout. C'est pas genre j'ai décidé de changer ma vie. Elle a un côté trop gentil, la blonde.
Et puis, l'actrice, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui passe pas avec l'actrice. Elle manque de charisme.
Par rapport à la brune.
Plus vieille que sa mère.
Voilà, tout le monde a l'impression qu'elle a 30 ans alors qu'elle en a même pas 20.
Ouais.
Non, on comprend pas vraiment comment ça pouvait être elle, la Queen Bee avant Blair. Oui. C'est ça qui est bizarre. Ben voilà, de grandes, grandes discussions sur ce podcast. Allez, une série avec des acteurs un peu connus. Le vieux de Fraiseur et la vieille de Tout le monde aime Raymond étaient réunis dans une sitcom bien, bien classique qui est diffusée sur la Fox, assez étrangement. À mon avis, ils veulent gagner des vieux. Quoi. Ils doivent avoir trop, trop de jeunes parmi leurs téléspectateurs. Donc, ils veulent des vieux. Et donc, on a une sitcom très, très classique par des anciens, par des vieux, vieux routards de la sitcom, des gars qui ont travaillé sur Fraiseur, sur...
Just Shoot Me.
Just Shoot Me. Alors, drum spécialiste, est-ce sitcom de Perdusa, qu'en as-tu pensé?
Bah, Back to You, c'est vraiment de la sitcom formatée des années 90, qui ressemble vraiment, 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 vraiment à Just Shoot Me. Les deux séries sont dans les lieux de l'entertainment. L'une, c'est dans les coulisses d'un magazine de mode et l'autre dans les coulisses d'un journal télévisé. Les répliques sont cinglantes, les acteurs sont très talentueux. Le seul problème que j'ai, ça reste quand même l'intrigue avec leur fille. En fait, dans Back to You, c'est l'histoire de Kelsey Grammer, qui interprète un Chuck Darling, le prénom et le nom de famille le plus utilisé cette saison à la télévision américaine, qui, après un pétage de plomb télévisé, se doit retourner à son premier job.
En gros, de la télévision nationale où il était une star, il revient...
Télévision locale, animateur de télévision locale d'un journal quelconque.
C'est comme Patrick Pavot d'avoir, c'est une grosse connerie, et était obligé de présenter le JT de midi de
le
France
TV 3
à la région.
Donc à peu près ça, avec un négo surdimensionné, et il doit retravailler avec son ancienne co-animatrice, Patricia Hayton, qui lui a caché qu'il y a 8 ans, après avoir pris des cours de tango horizontal, ils ont eu un môme ensemble. Et ce môme plombe un peu la série. La série est très très drôle, quand elle se déroule dans les coulisses de l'émission de télé. Quand on s'attarde sur l'intrigue entre la fille de Chuck et Kelly, ben c'est pas super intéressant, c'est beaucoup trop mielleux pour ce que la série est censée être. Et dans Just Shoot Me, il y avait ce problème en saison 1 avec le colocataire de Maya, mais un colocataire c'est très facile à s'en débarrasser, on calérise. Par contre, une fille c'est un problème qu'ils vont avoir pendant très longtemps, parce que...
Bah, c'est clair, c'est à part la mouille dans la baignoire, qu'il la noie, ça va plomber un peu l'ambiance des deux personnages principaux. Genre, notre fille est morte, mais c'est pas grave, on peut même faire des blagues au boulot.
Donc c'est un peu gênant. Mais à part ça, la série est assez réussie.
Le troisième épisode était complètement plombé par la gamine, mais simplement les 10 répliques qu'il y a avant le générique, bah, c'est ce qu'il y a eu de plus drôle à la télé cette semaine. Enfin... Si, quand l'un des vieux journalistes fait des grosses blagues sur le côté salope de la présentatrice météo et qu'il en rajoute avec sa mère, ça c'était ma mère.
Bon,
c'est
pas
frère.
Super fin, Back to You non plus. C'est pas le but.
Mais moi j'avais éclaté de rire comme ça devant la télé, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé.
Pas devant les 3 épisodes de Bien de Will and Grace.
Ouais, voilà.
Et les 10 saisons de Fraser.
Ouais, c'est un peu vrai. Alien in America.
Un pilote qui était très bien avec. Patrick Breen dans le rôle du père, et le pilote diffusé, c'est un pilote bien avec Scott Patterson dans le rôle du père.
Un pilote où le remontage est affreux, on voit bien que tout à coup il y a une tête de Patterson qui surgit de nulle part, et il est absolument abominable dans le rôle. On sent bien qu'il essaie de faire des efforts pour ressembler à l'ancien acteur, au côté un petit peu bizarre, mais sincèrement il ressemble juste à un pervers qui mate les fesses de Raja à un moment. Il passe le ménage avec un espèce de petit rictus très très étrange, alors qu'il est censé admirer, genre, ah, génial, quelqu'un qui fait bien le ménage. Non, on dirait vraiment qu'il mate juste le petit pakistanais. C'est très très troublant.
On a l'impression de voir un sportif qui serait devenu acteur après une blessure, non pas vraiment un vrai acteur.
Faut peut-être lui laisser un petit peu de temps pour se détacher justement. D'accord.
Avec la fille de Kelsey Grammer dans Back to You.
Et non, peut-être laisser un petit peu de temps pour qu'il se détache de l'acteur qui a pris le rôle, qui était très très bon. Moi je regrette qu'ils aient remplacé par Scott Patterson, mais
peut-être que si on avait vu le pilote avec Patrick Breen, on aurait été...
Ouais, je pense.
Mais Patrick Breen n'était pas super non plus super fantastique, il était bien.
Il était bien. Le rôle est très minime, mais c'est vrai que Patterson, déjà, il n'a pas le physique qui va dans l'univers. C'est-à-dire c'est toute une famille... Qui a vraiment l'air de l'américain moyen, alors que Patterson fait vraiment le American Dad costaud. Il n'a pas sa casquette, mais c'est limite si on ne l'imagine pas sur sa tête.
Je pense qu'ils auraient dû réécrire le rôle.
Il y a vraiment un côté, oui.
Je pense.
En faire un gars sportif, il y a... Oui. jouer sur les forces de Patterson.
Parce que là, ça nous paraît bizarre que ce soit la mère qui force son fils, enfin, qui l'aide à devenir normal, on va dire, ou à s'incruster parmi les gens populaires. Ça paraît bizarre là, que ce soit la mère. On a envie de dire que ce serait plutôt le père qui le pousserait à faire du foot.
Mais sinon, à part ça, c'est un très bon pilote.
Non, c'était très très drôle. C'était...
Voilà, on va en finir avec les séries de la CW, puisqu'on a fait Aliens in America, on a fait Gossip Girl, et il y en a une dernière, il y a Reaper, qui aime beaucoup Blackie. Donc...
Enfin, beaucoup, non. Mais disons que c'est l'une des rares à qui tu laisses sa chance, parce que c'est de la stupidité vraiment assumée. Par exemple, comparément à Smallville, qui est de la stupidité absolument pas faite exprès. Mais non, Reaper, c'est moi, j'ai toujours l'impression, j'arrête pas de le dire sur le forum, mais que c'est Ghostbusters. C'est stupide, c'est un mélange avec charme, on a des démons à la noix qui surgissent et qu'il faut qu'ils attrapent. Et ils ont un aspirateur ou des gadgets et ils se mettent des costumes idiots pour aller capturer les démons et c'est totalement stupide. Mais ça s'assume, c'est comme ça. Donc je leur laisse une chance. C'est vrai qu'il y a un problème de rythme pour l'instant. Il y a des moments où on décroche un peu, mais c'est vrai que bon, c'est Satan n'a pas l'air vraiment menaçant, il est même plutôt gentil puisque il veut récupérer ses démons échappés de l'enfer parce qu'ils vont faire du mal à des gens innocents à côté. C'est un principe de base vraiment idiot mais qui s'assume. Donc rien que pour ça, je leur laisse une chance. Alors que Chuck par exemple à côté se prend vraiment au sérieux.
Et puis Chuck essaye de ni à Smallville ni à Charmed. Donc du coup ça perd de son charme.
Mais Chuck essaye de contrebalancer entre le drame et la comédie et il n'y arrive pas vraiment. C'est pas spécialement drôle et c'est pas très profond niveau dramatique alors que Reaper n'essaye même pas d'être dramatique.
Moi c'est ce qui pose problème. C'est qu'on a trop de guilty pleasure cette saison. Il n'y a pas vraiment de...
De séries ambitieuses.
Bonnes séries dramatiques, de bonnes séries ambitieuses. Et c'est,
il n'y en a plus beaucoup.
Ouais, et pour en revenir à Dirty Sexy Money, ils avaient un casting pour faire quelque chose d'un peu plus ambitieux.
Quand Aaron Spelling fait Dynasty 2, ils prennent un casting de dingue avec plein de vieux acteurs d'Hollywood. C'est la même chose. Je trouve pas que ça. Je trouve que c'est pas grave d'avoir de bons acteurs dans des guilty pleasures si effectivement c'était contrebalancé par des séries un peu plus ambitieuses, même avec des acteurs pas très connus. Pushing Daisies, bon, qui de mon point de vue part d'un principe un peu stupide. Sur ABC, qui est une série qui était adorée par les critiques, qui a fait un plutôt bon démarrage à la surprise de tout le monde, puisque c'est une série de
Brian Fuller,
qui d'habitude fait que des flops.
Commerciaux.
Quelqu'un raconte le pitch et puis ensuite on dit ce qu'on en pense.
Voilà. C'est quelqu'un gars... qui peut ressusciter les morts
en les touchant.
Sachant que
le problème c'est que s'il les retouche, il meurt. Mais s'il les retouche pas, il y a quelqu'un d'autre qui meurt à leur place. Donc
pour l'équilibre de l'univers, tout ça.
Donc, il ressuscite son amour d'enfance, mais bon, il la tue pas après, parce que bon, il veut bien la garder, donc il peut pas la toucher. Il y a quelqu'un qui est mort à sa place, mais c'est pas très grave. Et puis sinon, ils vont pouvoir partir dans des enquêtes où, en gros, ils vont ressusciter les victimes 5 minutes, avoir des informations, le tuer une autre fois, et puis faire ça avec plein de gens.
Et c'est un truc imaginé dans... Enfin, j'ai adoré le pilote, j'adore la série. Le truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment gêné dans le pilote, c'est quand il refuse de retoucher Chuck. C'est un gars qui meurt.
Chuck, c'est-à-dire
c'est
pas le
geek.
Alors, pas
le Chuck. C'est quelqu'un à proximité qui doit mourir.
C'est quelqu'un à proximité qui doit mourir, sauf que là, c'est pas au hasard. C'est le gars, ne t'inquiète pas, le gros méchant qui volait des trucs aux morts et il va aller en enfer, donc c'est pas grave s'il meurt.
Ça m'a vraiment subversif. Ça avait été une gamine qui était morte ou.
Ou dans ces cas-là, qu'on dise rien.
Une personne sympa. Ou
qu'on dise rien du tout.
Qu'on sache pas qui est mort.
C'est le gars qui tient le funérarium qui meurt. Basta, qu'on n'a pas besoin de savoir qui vole les morts, qui le... Ça m'a un peu gêné, ce côté... c'est pas grave s'il meurt, c'est peut-être pas quelqu'un de bien.
Mais je pense qu'il y a plein de choses... Il y a tellement de règles, d'ailleurs, qui sont un peu... qui nous sont balancées comme un énorme tas, un peu dans le pilote. J'ai l'impression qu'il y en aura encore d'autres, il y a pas mal de choses à expliquer. On voit par exemple le chien qui a au moins 20 ans, et tout qu'il a ressuscité. Le chien, il ne devrait pas être encore vivant. Donc, quand on dit qu'il y a plein de petits détails comme ça sur son pouvoir à apprendre, et ça, c'est intéressant de voir ce que ça va donner.
J'ai peur justement que ça se révèle pas très intéressant, mais que ça se révèle être un.
Un guilty pleasure.
Non, pas un guilty pleasure.
Avec des filles à cravate. Un gars qui arrête des hélicoptères.
Ouais. Non, je pense j'ai peur qu'ils se servent de tout ça, de tout ce qu'ils n'ont pas dit pour se sauver un petit peu lors d'intrigues dans lesquelles dont ils sauraient pas trop quoi faire. C'est-à-dire, on a une intrigue, on sait pas quoi en faire. Tiens, on va lui inventer un nouveau pan pour ses pouvoirs et puis ça va nous sortir un petit peu.
Mais est-ce que l'étude de son pouvoir ou les intrigues policières qu'il va pouvoir y avoir, c'est ça qui va être intéressant dans la série?
Mais est-ce que Wonderfalls, on se dit c'est exactement la même chose en voyant le pilote? C'était très très limité au début. Hein.
Ouais.
Et puis finalement, ils ont réussi à développer énormément de choses, même sur la courte durée de Wonderfalls. Donc à ce niveau-là, moi je lui fais confiance. À moins vraiment qu'il ait perdu un peu
peur que ça se répète.
Bon, en même temps, il n'a jamais fait de série qui ont passé 13 épisodes.
Brian Fuller. Il est parti au
bout de 3 épisodes.
Mais ça a quand même réussi.
Ouais, sans lui.
Ouais, voilà. Il faut voir.
Toujours bien. Mais c'était bien d'être avec nous.
Sur cette note, nous allons abandonner les nouveautés de cette saison pour nous consacrer maintenant, au bout de 35 minutes de podcast, au retour de nos anciens favoris, de ceux dont on aime vraiment parler, c'est-à-dire Grey's Anatomy, The Office ou Survivor. C'est parti, parlez-nous de la série dont vous êtes ravis du retour, ou dont le retour vous ravit. Comme vous voulez.
30 Rock.
Alors, quelle surprise. Et qui c'est qui en parle? C'est Drum.
Bah, c'était super bien, mais j'ai pas grand chose à dire. C'était juste pour dire que c'était super bien. Que Tina Fey est de plus en plus belle. Que le nouveau générique est super bien.
Qu'elle joue super bien, Tina Fey.
Et c'est vachement amélioré.
Et que sa nomination à l'Emmy, finalement, elle est justifiée rétroactivement. Enfin, tellement elle était bonne dans cet épisode. Mais. C'était quand même un peu facile pour elle parce qu'elle avait quand même à côté d'elle le plus mauvais acteur de la télé américaine. Mais ce mec, il peut pas, il sait pas jouer.
Mais il le dit lui-même, hein. C'est pas un acteur, c'est pas.
Mais dans ce cas-là, il faut pas l'engager. Il faut leur dire au producteur, non, il faut pas le prendre. Hein. C'était nul. À chaque fois qu'il était dans une scène, tout était plombé parce qu'il était dedans.
Sauf le moment où elle lui dit que c'était comme ça qu'elle pleure. Ouais. Non, parce qu'il fait du Jerry Seinfeld. Mais face à Alec Baldwin, c'est clair qu'il faisait vraiment pas l'affaire.
Mais rien pour les réactions de
Kenneth.
Exactement.
Une série dont t'es contente du retour.
Ugly Betty. je vais le faire.
C'est bien. Je te fais une petite pause. Lisa, cette année, va reviewer Ugly Betty sur Perdusa. Donc à peu près tous les 4 mois, vous devriez avoir une review d'un épisode.
Non, j'ai pris des bonnes résolutions.
C'est vrai.
Mais pas genre j'arrête de fumer.
D'accord. Tu demanderas à Guise de les faire.
Voilà. Avec un retour... très réussi pour le season première, qui était très très drôle, qui a géré magistralement tous les cliffhangers qu'ils avaient lancés à la fin de la saison. Et en lançant surtout le fait que Alexis est redevenu Alex. Et ça, c'était assez énorme. Je pensais pas qu'il pourrait faire mieux que justement Alex est devenu Alexis. Et je dois avouer que je me suis fait avoir comme une bleue parce que j'avais jamais pensé qu'ils auraient pu faire l'inverse.
Et ce que j'aime bien dans Ugly Betty, c'est que les cliffhangers qu'ils ont lancés en fin de saison, c'est vraiment des intrigues pour la nouvelle saison. C'est pas juste on fait semblant de tuer tout le monde et puis on se rattrape aux branches comme on peut les 15 premières minutes du season première de la saison suivante. Et puis on oublie tout ce qui s'est passé, qui a fait la jonction entre les deux saisons. Là, enfin, tout ce qui s'est passé les 10 dernières minutes de la dernière saison, ça va être la base de toute la nouvelle saison qui démarre vraiment, vraiment, vraiment bien. Avec quand même Justin en stagiaire à mode qui est vraiment la meilleure idée de l'année. Même si je suis un peu stressé par le fait que j'ai l'impression qu'il va vouloir ressembler un peu plus à son père mort que à sa mère extravagante.
Moi, je
t'as pas stressé cette scène dans le bar où il fait « Oh, tu dois ressembler beaucoup à ton père » et Justin fait « Ouais, ben non. »
Et qui prend le ballon de basket
et tout ça.
Ça doit sûrement être un tout petit moment, peut-être sur un ou deux épisodes.
Voilà, ça va être une phase.
Je pense plutôt qu'il va ressembler à Marc.
Ah oui, c'est
Marc. Ça me paraît assez évident.
Ah oui, c'est son nouveau mentor d'ailleurs quasiment.
Je pense que ça va aller plus sur cette lignée-là plutôt que oh mon dieu, mon père est mort, je vais essayer de lui ressembler.
Ben, moi, c'est le premier épisode m'avait choqué parce qu'il paraissait pas super traumatisé par la mort de son père qu'il avait vu 3 semaines avant. J'aime bien le fait qu'au contraire, il essaie de lui ressembler, même si au bout d'un moment, il dit « Ok, c'est clairement pas moi, je peux pas être comme lui, et je vais trouver ma voie grâce à Marc. Voilà, » admettons. Et je peux pas dire que Marc va faire sa virginité à Justin.
Après, c'est juste pas. Justin, c'est dans Big Brother.
J'ai dit Justin.
Il dit Dustin, non? Ou c'est mon oreille?
Mais voilà, non, cette intrigue de Justin... me dérange absolument pas. Effectivement, ce qui était vraiment réussi dans ce season première, c'est que rétroactivement, le season finale me paraît beaucoup plus réussi que l'impression que j'en avais eu quand on avait vu pour la première fois.
Mais parce qu'on est un petit peu blasé maintenant par tous les cliffhangers. C'est la mode des séries maintenant de faire cliffhanger sur cliffhanger à la fin de la saison. Au final, ça mène rarement à quelque chose. Et là, c'est vraiment... c'est une continuité.
Ouais, mais pour un saut comme Ugly Betty, t'es obligé de faire des cliffhangers.
Ah non, mais je critique pas justement, parce qu'ils ont super bien géré après... Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand on a vu l'épisode la première fois, tu te dis, oui, bon, super, cliffhanger, blasé. Et en fait, non, c'est super bien géré. C'est une très bonne rentrée pour Ugly Betty.
Alors, est-ce que les cliffhangers dans Grey's Anatomy ont été aussi bien gérés? Mais il faut quand même qu'on en parle, parce que moi, j'aime bien Grey's Anatomy, en fait.
Disons qu'ils ont repris un certain rythme que la série avait avant, par exemple, en saison 2. Après la catastrophe de la saison 3, ils auraient pu faire pire et ils sont revenus à quelque chose d'à peu près sympathique, correct. Bon, évidemment, c'est assez étrange de voir les deux acteurs qui sont le plus disputés avec Isaiah Washington avoir des dialogues du genre « Oh, il me manque trop, c'était tout mon meilleur ami », enfin, des choses comme ça. Il y a toujours les mêmes défauts, toujours les mêmes qualités, entre guillemets. On ne peut pas vraiment développer sur Grey's Anatomy. Je sais pas comment on le fait pendant un an, mais...
Et tu as toute notre admiration pour ça.
Moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième épisode, mais surtout quand je me suis rendu compte qu'il était écrit par Deborah Kahn, qui était la scénariste qui a revitalisé The West Wing. Puisque si vous regardez dans la saison 6, à chaque fois que c'est elle qui a écrit un épisode, c'est l'un des meilleurs épisodes de la saison. Et elle est arrivée sur Grey's Anatomy. Je comprends pas pourquoi c'est pas elle qu'ils ont mis en charge de Private Practice. Parce que, c'est autre chose que Shondra Rhimes ou l'autre, comment elle s'appelle, la fille de Buffy, là,
je ne sais pas. Noxon.
Martin Noxon. Elles deux, elles ne savent pas écrire. En tout cas, Shondra Rhimes, elle est complètement perdue.
Grey's Anatomy, justement, qu'elle essaie de raviver une série pas complètement morte, plutôt que de s'occuper d'un nouveau truc qui n'est même pas sûr de marcher.
Moi, j'aimais bien comment elle s'appelait.
Kate Walsh.
Ouais.
Oui. Ouais, faut espérer que sa série va se planter, qu'elle va revenir.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Private Practice?
Ouais.
C'est
comme Grey's Anatomy, un casting qui pourrait être bon mais qui est immonde, des intrigues atroces. Donc dans le deuxième épisode de Private Practice, il y a Teddy X qui va aller soigner un gars qui a d'horribles crampes à l'estomac, et quand ils font des examens, ils pensent que c'est quelque chose, une intoxication alimentaire. Son fils arrive quelques temps après avec les mêmes crampes, et en fait, ils n'arrivent pas à trouver d'où vient cette intoxication alimentaire. Et c'est en discutant par hasard avec Tim Delis ou devant le gars de Veronica Mars, avec Piz, qui se disent oh, bah, peut-être que c'est un champignon qui mélange à l'alcool te fait des grosses crises d'estomac. Évidemment, la situation là. La plus crédible quand t'as des crampes d'estomac.
Ah oui, c'est les champignons.
Mélange d'alcool et champignons.
Enfin, voyons.
Donc là, il convoque la grand-mère qui cuisine pour le père et son fils. Et la grand-mère dit oui, mon fils est alcoolique, alors pour éviter qu'il boive de l'alcool, ben, je lui mets des champignons, comme ça, à chaque fois qu'il boit de l'alcool, ben, grosse crampe d'estomac. Son fils, manque de bol, à 17 ans, il se fout la gueule, comme un bon américain qu'il est. Et lui aussi, il supporte pas les champignons musulmans qui t'interdisent de boire de l'alcool. Alors Teddy X dit, bah écoute madame, je vais t'envoyer à la police parce que c'est mal ce que tu fais, d'essayer de tuer ton fils et ton petit-fils, et elle fait, de toute façon moi je vais te mourir dans peu de temps, donc tu m'envoies à la police ou pas, et je vais continuer quoi. Limite je m'en tape quoi. Teddy X convoque alors le fils de la grand-mère et le petit-fils, et Teddy X dit, écoute, tu as un problème, tu bois de l'alcool, c'est mal, tu dois mourir, ou aller en cure de désintox. Lui fait, non, moi mon alcool je suis heureux, mon vin blanc avec mes crackers, ça me botte. Et il refuse d'arrêter de boire, ce salaud. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Teddy? Est-ce qu'il va dénoncer la vieille et empêcher la vieille d'empêcher son fils d'arrêter de boire de l'alcool? Non. Il va dire au patient, donc il va lui refuser de donner la vraie raison de sa maladie, mais il va lui dire que tu développes une allergie à l'alcool. Donc il va mentir sur un diagnostic et il va inventer une maladie qui n'existe pas. Mais tout ça pour son bien, pour l'empêcher de boire de l'alcool. Parce que Teddy peut mieux vivre la vie d'un simple américain. C'est fantastique cette série.
En tout cas, ça
c'est
t'inspire.
Magnifique. Hein.
Mais vous n'avez pas l'impression. Oui. Vous n'avez pas l'impression que les séries télé, c'est en train de devenir le cinéma d'Hollywood d'il y a 10 ans, où finalement, c'est les têtes d'affiche qui comptent, c'est c'est le démarrage. Parce que c'est un peu ça, cette rentrée. C'est que des grosses têtes d'affiche, des acteurs qui ont fait d'anciennes séries, d'anciens succès. Et des scénarios qui suivent vraiment pas la route.
Oui.
Donc il faut qu'on trouve un autre sujet d'intérêt que les séries télé.
En même temps, ça se peut que c'est pas l'Hollywood d'il y a 10 ans, mais les séries d'il y a 10 ans. J'ai l'impression qu'on a souvent des phases où des séries sont plus menées par des acteurs, et que là on sortait d'une phase qui était plus menée par des scénaristes.
Oui, t'as raison, tout ce qui était Suzanne,
exactement.
Suzanne, machin, bientôt on aura Lorraine.
Dès que tu as une actrice qui était potentiellement, enfin un acteur ou une actrice qui avait un potentiel de sitcom, il avait automatiquement sa sitcom. Il suffisait juste de faire un guest dans Friends pour avoir automatiquement ta sitcom l'année qui suivait.
Ah, tu penses que c'est plutôt un glissement de ce...
Ben, je pense qu'on retourne là vers des séries qui sont plus menées par des acteurs que par des principes ou par des séries.
Et comme maintenant c'est les dramas qui fonctionnent, c'est plus aux sitcoms qu'on a.
Non, c'est ce que j'allais dire, par contre, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche moins bien. C'est parce que tu peux baser une sitcom sur un acteur, baser un drama sur un acteur, je trouve ça plus périlleux.
Bah, si, non, t'as qu'à prendre Hello Kitty Blue. Quand David Caruso est parti et qu'il a décidé de revenir à la télévision avec sa série Michael Hayes,
ouais.
Le gros truc c'était avec David Caruso de Michael Hayes. Amy Brennan de Private Practice, pourquoi elle a eu sa série? Parce qu'elle a joué dans NYPD Blue.
Ouais, mais ça me paraît plus. J'ai plus d'exemples en tête de sitcoms qui marchent grâce à une.
Ah, mais ça marchait pas non plus. Hein. Regarde The Closer avec Tom Selleck. Parce qu'il sortait de son guest dans Friends, ouais. Sa série s'est pété la gueule.
Par marché, je veux dire qu'ils sont plus réussis, quoi.
Jill NC.
Ouais, Crossing Jordan.
Voilà, Crossing Jordan.
Mais c'était pas non plus un succès. C'était comme J.J. Gamey.
C'était pas un gros succès, mais sur la longueur,
ça a duré. Moi, je trouve qu'on retourne plus maintenant à des séries qui sont menées par des acteurs. On est en train de parler en ce moment, cette semaine, il y a une rumeur qui dit que Ben Silverman est en train de développer un spin-off de The Office. On retourne avec cette mode de spin-off, de.
Pour parler de Ben Silverman, je suis un peu déçu que finalement Bionic Woman n'ait pas explosé tous les scores. J'aurais bien aimé que la rentrée d'NBC marche bien pour qu'ils se rendent compte à quel point ils se sont ramassés en le virant et d'avoir engagé cette grosse tâche là qui est en gros a déjà renouvelé The Big Loser ou The Biggest Loser sur NBC alors que ça marche pas bien d'un point de vue d'audience, mais c'est une série de télé-réalité qui est financée par son ancienne boîte, ouais, tout comme The Office.
Pas son ancienne boîte, il est encore. Il travaille encore dans la boîte qui fait les deux.
Et un spin-off de The Office, je sais pas, je trouve ça un peu léger. Mais bon, revenons à nos amis des séries télé. Des séries sans stars. Eh oui, c'est pas du tout la bonne. Je voulais faire une espèce de transition. Alors, bon, d'accord, il y a des stars et des scénarios pourris sur les networks, mais sur le câble, il y a des scénarios. Et des acteurs pas connus, donc on va parler de Damages avec Glenn Close.
T'as pas à t'excuser de foirer ta transition. Toi, t'as pas de script, toi. Sur ta feuille, il y a juste écrit « Tigrou, tu me manques, lis je veux ton corps ». C'est tout ce qui est écrit sur ta feuille. Et tu devrais en être fier.
Donc cet été, il y a eu deux séries sur le câble qui sont en train d'achever leur diffusion. Il y avait Damages sur FX qui est un thriller judiciaire avec Glenn Close, dont Ted Donovan, une petite blonde, non, une petite brune même.
Rose Byrne,
qui ressemble à Cathy Holmes avec du talent. Ça, je l'ai piqué à Drum. et puis il y avait sur une chaîne que je connaissais même pas qui s'appelle AMC.
American Movie Classics.
Mad Men, qui est la série d'un ancien scénariste des Sopranos sur le monde de la publicité à New York dans les années 60.
Absolument. Allez, pas, c'est sur la cigarette dans les années 60.
Dites tout le bien que vous pensez de ces deux séries, c'est parti.
Damages, c'était bien, maintenant c'est comme ça commence à être un peu moins bien. c'est un peu touffu Damages quand même. Moi j'aime bien les flash-forward, les flashbacks, mais là on instaure des flash-forward, des flashbacks de flash-forward, des scènes de rêve qui commencent à être totalement intégrées à l'intrigue. Finalement Ted Danson, il n'est pas si méchant que ça, et l'intrigue qu'on nous avait vendue à l'origine, c'est peut-être pas l'intrigue principale. Je commence un peu à m'y perdre et enfin, je trouve que l'intérêt de la série est vraiment vraiment en train de se diluer dans les effets de style, dans les... S'ils avaient choisi une histoire peut-être linéaire, ça aurait peut-être un peu mieux gérer leur...
Moi, j'aime bien leur construction en flashback de 6 mois, d'un mois, de 3 semaines. Mais le problème, c'est que l'intrigue n'est pas assez complexe pour supporter cette construction.
Pour justifier ça, une construction...
C'est un peu dommage, c'est un peu plan-plan. On a un peu à peu près compris ce qui s'était passé. Bon, peut-être qu'il y aura un retournement à la fin. Mais c'était pas suffisamment complexe pour avoir ce genre de structure. Et puis, il y a tout un tas de petites erreurs de réalisation qui font tâche. Des fois, à un moment donné, on se retrouverait dans Grey's Anatomy avec une scène de repas où tout le monde rigole, puis il y a une musique, et on se dit, mais ça va pas du tout dans Damages. Et des scènes de rêve aussi complètement gore qui apportent pas grand-chose. Mais ça reste quand même... Enfin, j'ai quand même envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'aurais bien aimé avoir cette série en DVD, je pense que je l'aurais regardé en une journée. Mais là, ouais, attendre une semaine, c'est un peu pénible.
Et ce qui me gêne avec l'intrigue, avec la façon dont la série est montée, c'est que les scénaristes sont en train de dire « Ok, on en sait beaucoup plus que vous. » Dans Murder One, enfin, quelques fois, t'avais... Je sais pas comment expliquer ça. On va dire que Murder One, c'était beaucoup mieux que Damages.
Tu peux le dire comme ça.
Comme ça, c'est pas
Murder
mal.
Murder One, c'était beaucoup mieux que Damages. J'expliquerai un jour pourquoi, quand on aura plus de temps. Mais Blackie est en train de me penser parce qu'elle veut parler de Mad Men.
Elle veut parler fort.
Mm. Ah, je veux parler fort, oui. Mad Men, donc la série, petite série du câble qui finit la semaine prochaine, sa première saison, qui a été renouvelée pour une seconde, vraiment sans aucune surprise, puisque on lui demandait pas grand-chose niveau audience. C'est la seule série de la chaîne AMC, donc vraiment aucune surprise. Les critiques sont dithyrambiques de tous les coins. Mad Men, c'est vraiment très difficile d'en parler parce qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose quand on prend juste un épisode. Le rythme est très lent, on se concentre pas forcément sur tous les personnages et puis on se rend compte en fait en y repensant sur l'ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, que finalement on a eu des crises cardiaques, des multiples liaisons, on a eu quelqu'un qui se pend, enfin on a finalement eu plus d'action et plus de développement de personnages en une poignée d'épisodes que dans beaucoup de séries. Alors que ça donne pas l'impression comme ça au premier abord. J'ai un peu du mal à en parler, c'est très difficile d'en parler, mais c'est parfait.
Et puis il y a un gros effort sur le style de Mad Men.
Ah, l'esthétisme, très les détails, tout est absolument magnifique.
Mais c'est pas esthétisant, voilà. ça fait une vraie atmosphère au service d'un propos.
Oui, voilà, on a pas l'impression d'avoir des acteurs déguisés, genre allez, on va mettre des jupes bouffantes et c'est les années 60. C'est pas ça du tout, on a vraiment l'impression que ça a été tourné à l'époque. Avec une pellicule un peu meilleure.
Avec un très beau générique.
Très beau générique, assez hypnotisant.
Non, puis une vision des années 60 qui est absolument désastreuse. Enfin, on nous vend souvent l'âge d'or américain, les années 50, tout le monde était heureux. Et c'est un désastre absolu, la condition des femmes, des juifs, des noirs, de tout. Enfin, en gros, à cette époque-là, il fallait juste être blanc et riche. Bon. C'est un peu le cas encore maintenant, mais
c'est justement. Ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte qu'il y a l'air exagéré. On se dit ah, c'était vraiment incroyable il y a 40 ans. Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont pas tellement différentes aujourd'hui. Hein. Il y a toujours des problèmes dans les mariages. Il y a toujours des clichés que les gens ont sur les autres. Il y a toujours du racisme. Il y a toujours du sexisme. Il y a plein de réflexions. On a l'impression que c'est énorme, mais quand on y réfléchit, finalement, les choses n'ont pas tellement changé. C'est une
donc,
bonne
en train de dire que donner le droit de vote aux femmes, c'était une grosse erreur.
Non, je ne suis pas Anne Coulter, qui est une république, c'est tard.
Et qui était sauve. Sur des cakes.
Sur les femmes, tu t'en fous. Par contre, les cakes, faut pas, c'est ça.
Là, c'est ça. C'est
allez, qu'est-ce qu'elle pense des Arabes?
Bah, c'est des terroristes, là, des gentils.
Ouais, méchante Anne Coulter, je la déteste.
Bon, allez, pour terminer ce podcast un petit peu long, mais c'est parce qu'on a tellement de choses intéressantes à dire. Passons à notre rubrique que l'on va garder encore cette année, qui est l'épisode du mois de la semaine, où chaque chroniqueur va nous parler de son épisode préféré ou peut-être plutôt marquant de la semaine, du mois. Lisa.
Je vais prendre Darty Sexy Money.
C'est-à-dire tu vas reparler de quelque chose
dont on a parlé, effectivement.
C'est surtout si tu reparles, c'est normal qu'on en ait déjà parlé. Bon, bref, oui. C'est une bonne idée.
En même temps, tu as noté Survivor que je ne regarde pas. Je sais, tu peux me frapper. Mais voilà, tu es mignon.
Tu veux pas parler de Beauty and the Geek?
Je peux parler de Beauty and the Geek, mais je n'ai vu que la saison première pour le moment.
Qu'est-ce que t'as vu à part Dirty Sexy Money? Tu veux parler de Chuck?
Je peux parler de Chuck. Alors attends, j'ai vu Ugly Betty aussi, sinon j'ai vu Grey's Anatomy. Gossip Girl. Mais on en a déjà parlé de tout ça. Non, je peux parler de Beauty and the Geek.
Ah, vas-y.
Qui est de retour avec un petit twist. où donc on a 10 équipes, comme d'habitude, avec la bombasse de base et le geek.
Et Chuck, on a quoi. Eu un.
Voilà.
Et la fille de Chuck.
Et la fille de Chuck, en fait. Mmh. C'est la télé-réalité. Et on a un nouveau couple qui on a un nouveau couple qui est arrivé inversé avec un mec absolument moche d'ailleurs. Il est immonde, c'est horrible. Et en plus il est complètement stupide.
Et bah, c'est la version mâle de, des voilà. filles de Beauty and the Geek qui
Il y en a des jolies quand même dans les filles.
Ah, il y en a des immondes. Hein.
Oui, il y en a des immondes.
Il y en a des immondes.
Il y en a des innombres.
Il y en a des ignobles.
Ouais, mais t'en as qui étaient jolies par exemple l'année dernière.
Ouais, mais là
je ne connais pas moche, encore assez, mais.
C'est qu'elles sont pas moches, c'est qu'en gros c'est des gros seins et des cheveux.
Ah, mais c'est pour ça que c'est pas moche.
Et voilà, et le mec c'est des muscles et.
Voilà. Ouais, mais il y en avait des jolies l'année dernière quand même. Et donc et la geek, la femelle geek.
La femme du geek.
Voilà. C'est pas mal.
Et ce twist, est-ce qu'il apporte quelque chose est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau, d'intéressant au principe de l'émission? Est-ce que tu trouves que ça gâche un peu l'esprit même de ce show formidable de la CW qui est quand même
à fond,
ce qui nous intéresse le plus à Perdusa, cette chaîne formidable.
Moi, je n'ai vu que le season premier pour le moment, donc j'attends de voir. Je suis pas bien emballée. Ça me paraît bizarre de rajouter un couple comme ça, ou alors il aurait fallu faire absolument tout l'inverse. Maintenant, je me dis qu'ils ont des ressources en général pour faire des twists qui sont assez sympas, donc on verra. Mais j'ai déjà quelques préférés. Hein,
bah, si je peux me permettre, moi qui ai vu les deux d'après, c'est vrai que bon, c'est un peu là pour créer des accrochages avec les autres équipes et mettre un peu d'ambiance. Mais c'est surtout que le plus gros problème, c'est que c'est pas adapté parce que la fille geek a droit à des épreuves. Exactement les mêmes que les garçons. Les garçons, par exemple, doivent s'occuper de faire un panier qui plaira à une fille, de remplir d'achats mignons, voilà, d'essayer de deviner qu'est-ce qu'aiment les femmes. Et la geekette doit faire exactement la même chose. Elle doit pas s'occuper d'un panier réservé
pour un homme.
Et elle aussi, elle doit. En gros, elle apprend à séduire une femme, donc c'est complètement. C'est pas adapté à elle. Elle est complètement en décalage avec le reste. Alors, pour le.
Mais bon, regarde, ça avantage, aller, du coup.
Même pas parce qu'elle l'a perdu. C'est pas adapté quoi.
Ou alors ils essayent de faire, on va essayer de la transformer en vraie fille.
Bah de toute façon il y aura le makeover, donc à ce niveau-là au moins elle sera retouchée au moins physiquement.
Moi j'aime vraiment bien ce principe.
C'est trop bien ce principe.
J'aime vraiment bien ce principe parce que ça. Les geeks, de toute façon, j'ai juste envie de les tuer depuis cette
émission. Ça dénonce l'hypocrisie de l'émission.
Mais oui, ça dénonce complètement parce que, en gros, c'est ça. Les filles, le principe de l'émission, c'est à la fin ou à chaque fin d'émission, les filles disent oh là là, il est tellement moche avec des grosses lunettes, mais il a tellement un grand cœur, c'est formidable, j'ai tellement évolué. Et là, avec ce mec, ça justement, ça parasite le principe de l'émission. Et j'espère qu'on va se rendre compte que les blondasses, tout ce qui vont les intéresser, c'est les muscles du mec. Et que ouais, les geeks ils sont rigolos, avec eux on peut gagner 250 000 $ et avoir l'air d'être gentil à la télé, mais en gros on est des pauvres filles et les geeks sont des demeurés aussi, puisqu'ils s'intéressent à ces pauvres filles pour qui seul l'extérieur compte. Je trouve ça super bien que cette équipe mixte bouscule un peu le principe de l'émission, un peu trop niaiseux finalement.
C'est vrai qu'il y a de ça, mais il y en a aussi qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent je suis venu là pour justement être coupée du monde, qu'ils la mettent, surtout les filles, elle dit je suis là pour être coupée du reste du monde superficiel où j'adore ce genre de mec. Je suis là pendant mes vacances, j'aimerais bien en fait, pas seulement s'occuper du geek d'à côté,
ça s'appelle de la télé-réalité, ça doit représenter la réalité.
Non mais c'est le côté tellement niais justement des bonnes intentions, c'est j'ai pas seulement envie d'aider celui d'à côté, c'est moi-même j'aimerais bien être un peu moins conne. Et parce qu'on leur donne des choses à apprendre, des livres à lire, parce qu'elles admettent qu'elles ne le font jamais, en général, dans la vie réelle. Et les garçons, pareil, c'est un changement de leur vie, ce sera juste pendant quelques vacances, ils seront entourés de belles filles qui leur parlent. Et peut-être qu'ils seront un peu moins timides après, et c'est que de la bonne intention, c'est naïf, et ça change un peu de toutes les catfights qu'on a à côté avec Tyra Banks, quoi.
Non, moi je dis non.
C'est la violence dans ce monde.
Moi je dis qu'il faut tous les noyer, les geeks de l'émission, parce que quand la petite geekette
joue
à un moment à Truth or Dare, Action ou Vérité, elle dit qu'elle n'est pas du tout intéressée par un striptease du beau gars, mais qu'elle est intéressée par un gars dans l'émission et que c'est un geek. Elle ne veut pas dire c'est qui.
Il y a un des geeks.
Elle dit tout de suite que, bah écoute, le gars, non, il m'intéresse pas. Enfin, c'est juste les geeks qui m'intéressent. Il n'y a aucun des geeks qui a eu pendant les trois saisons. Personne s'est dit, enfin, ok, c'est toutes des bonasses, mais j'ai sûrement une geekette dans mon entourage ou qui me botte très bien et tout. Il n'y en a aucun dans l'émission qui sort ça.
T'as tort, là. Justement, c'est l'inverse.
Me dis jamais que j'ai tort en public. Femme, ne me dis jamais que j'ai tort en public.
Et bien pourtant, si, il n'y a pas que la geekette. Justement, celui qui a un regard de psychopathe.
C'est des geeks, ils ont tous
ça. Oui, mais lui, je crois qu'il fait du jeu rôle en nature.
Oui, il est beau,
lui. Truc comme ça. Il le dit d'ailleurs qu'il l'aime bien, la petite geek.
Après qu'elle ait dit qu'elle serait intéressée par un gars.
Oui, il est ravi, il fait « Ah, je suis content parce que je l'aime bien ». Il dit pas qu'il aime bien l'une des belles filles hein, à ce niveau-là.
Dans les deux premiers épisodes, c'est ce qu'il dit, qu'il est intéressé par une des bombasses.
Ah, ça, je m'en souviens pas, mais bah, évidemment, tu vois quelqu'un de beau ou belle en face de toi.
Non, mais tu dis que c'est pour devenir. Non,
mais
c'est pour
dire. Il la voit quand même, il la remarque et il dit « Je l'aime bien ».
Ouais, mais l'émission, c'est pas de dire « Je veux devenir quelqu'un de meilleur », c'est « Je vais apprendre à me taper une bonasse ».
Ouais, où je vais apprendre déjà à m'adresser à la parole aux filles.
Non, c'est pas aux filles, c'est pas
aux filles. C'est aux bonas.
C'est aux bonas qui ont des gros seins.
De préférence.
Et après, ils vont faire des blogs pour expliquer comme Nils.
Ah oui.
Oh non, on
va expliquer aux autres geeks comment faire. Horrible.
Donc, voyez, on a bien compris le principe de la chronique épisode du mois de la semaine. On fait comme le reste du podcast où tout le monde parle. Ça peut être aussi un nouveau principe. Drum, parle-nous de ton épisode du mois de la semaine.
Mon épisode du mois de la semaine, c'était Private Practice, mais j'en ai parlé et en plus j'ai vu que t'as écrit House, donc je vais te voler.
C'est pour moi, j'ai écrit House en face, regarde.
Je sais, c'est pour celui que te voler, j'ai aucun scrupule, je suis un terroriste.
Donc dans House, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont viré la l'ancienne équipe de.
Vas-y. De House.
Ouais.
Donc ils sont dit qu'on va prendre la série, on va prendre les trois personnages les plus énervants de la série et on va s'en débarrasser.
Ça, je trouve ça un peu nul comme principe. C'est dégueulasse.
C'est super méchant. Et à la place, on va rajouter une vingtaine de nouveaux personnages et on va en éliminer un toutes les 10 minutes. Et les plus intéressants vont rester, vont remplacer la nouvelle équipe. Au bout de 5 épisodes, ils vont nous énerver. On va dire que cette série est trop nulle et que l'écologie, c'est super bien. Que House, la série, va re-nous énerver dans 5 épisodes. Mais l'instant, The Apprentice version House, et ça, je l'ai piqué à GG. C'est plutôt simple.
C'était comme Dirty Sexy Money. Moi, j'attendais cette série à fond, je savais que j'avais raison, c'était bien, je suis content. Et bah, House, c'est pareil, j'attendais beaucoup du principe, c'est super bien réussi. Les cas, même les cas médicaux des deux premiers épisodes étaient plutôt pas mal, plutôt bien trouvés. Ça faisait pas complètement parachuter pour faciliter l'intrigue. Bon, le Kadhafi qui voulait pas savoir qui on était, tout ça, machin, bref. Ouais, j'aime beaucoup ce que je dis, je sais plus du tout où je partais, mais voilà, House, c'était bien.
Non, mais c'est intéressant d'avoir des scènes. Sans aucun des acteurs crédités au générique. Dans ces épisodes de House, il y a vraiment des scènes avec des prétendants au poste. Et c'était un peu claustrophobe, House, je trouvais, comme pour une série médicale. C'est une série qui se tourne que sur 5 personnes avec en plus le patient du mois de la semaine. Là, c'était bien d'avoir des nouvelles têtes, des nouveaux visages, et même si ça va pas durer très longtemps, un peu de sang neuf. Et...
GG, ton épisode du mois de la semaine.
Ben c'est Survivor.
D'accord.
J'ai adoré l'épisode où ils en ont éliminé un à la fin, c'est super. Non mais elle est bien cette saison de Survivor. Enfin, comme tous les ans, je suis content quand même d'avoir trouvé une émission où peu importe les saisons, les changements, etc. C'est super répétitif mais c'est toujours plutôt pas mal.
C'est House mais en bien.
C'est House mais en bien. C'est ce que j'aime dans les séries télé, c'est qu'on regarde ça toutes les semaines et on est content toutes les semaines. Et c'est quand même assez rare en ce moment à la télé où les trois quarts des séries, au bout de trois épisodes, elles s'affaissent sur leur principe un peu bancal. Survivor, c'est toujours la même chose. Et mais c'est un principe qui marche, qui est vachement bien. C'est la bonne époque de Star Picky Edge. C'était toujours la même chose, mais c'était toujours hyper bien. Et bien là, c'est vachement bien. Et les challenges de Survivor China sont quand même super bien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours dans la boue. Où il faut s'arracher le plus de vêtements possible. Et à la fin, les gens les plus forts ont éclaté ceux qui avaient moins de muscles, et c'est eux qui gagnent. J'aime beaucoup cet esprit dans Survivor.
C'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui.
C'était bien pour aujourd'hui.
C'était pas mal pour aujourd'hui.
S'ils ont réussi à tout écouter d'un coup.
Et bien...
On dit au revoir.
Dis au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Salut.